Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, nous allons retrouver Benoît Béarderic, historien, philosophe et collaborateur scientifique à l'ULB. Alors bien souvent, il nous emmène à la découverte de personnages particuliers, tirés des fins fonds du Moyen-Âge. Eh bien, cette fois, c'est un peu le cas aussi, quoique on se balade aussi dans le temps présent, puisque Benoît Béarderic va nous parler aujourd'hui du Nom de la Rose. Alors, le Nom de la Rose, c'est un livre écrit par Umberto Eco, c'est également un film, et c'est depuis peu également une bande dessinée. Voilà, je lui laisse la parole tout de suite, Benoît Béarderic. Benoît Béarderic, on se voit aujourd'hui pour parler de livres, de cinéma, de bande dessinée, et plus précisément du Nom de la Rose.
Oui, le Nom de la Rose, ce roman, le premier roman de Umberto Eco, qui est paru en 1980 en italien, et qui a connu un succès phénoménal, hein, parce que depuis ce moment-là, il a été publié et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Donc c'est un best-seller absolument considérable, et c'est un livre extrêmement intéressant, foisonnant, qui a fait l'objet aussi bien de très nombreuses traductions, à commencer par la traduction en français en 1982 chez Grasset par Jean-Noël Schifano. Très belle traduction dont Umberto disait d'ailleurs que son livre dans cette version-là était mieux encore qu'en italien, donc il préférait encore la version française. Ensuite, il a été porté au cinéma par Jean-Jacques Hano en 1986, avec Sean Connery dans le rôle de Guillaume de Baskerville, et avec certains grands acteurs comme Michael Lonsdale, et puis d'autres moins connus, avec des trognes absolument incroyables. Enfin, Ron Perlman qui joue Salvatore, un personnage un peu étrange, qui parle toutes les langues et n'en parle aucune, et qui difforme. Enfin voilà, c'est un film assez marquant, hein, ce film de Jean-Jacques Hano qui suit assez précisément, qui prend quelques libertés quand même par rapport au livre. Hein. Jean-Jacques Hano a dit qu'il s'agissait d'un palimpseste à l'ouvrage d'Umberto Eco. Un palimpseste, ça fait référence, c'est un peu savant comme terme, mais ça fait référence aux manuscrits du Moyen-Âge, qui étaient donc sur des peaux d'animaux, hein, des peaux de veau, de mouton, etc. Les plus précieux étaient en vélin, peau de veau. Et bien parfois, pour récupérer les manuscrits, pour récupérer le manuscrit pour pouvoir réécrire sur un parchemin, eh bien on grattait l'écriture et on réécrivait dessus. Mais donc il restait toujours un petit peu en filigrane, en quelque sorte, la présence du premier texte. Eh bien voilà, en quelque sorte, Jean-Jacques Hano a dit, mon film, c'est un palimpseste au livre d'Umberto Eco, ce n'est pas le livre, mais ce n'est pas complètement une adaptation, c'est un palimpseste. Voilà, c'est une adaptation un peu libre. D'ailleurs, Umberto Eco, qui s'est assez bien entendu avec Jean-Jacques Hano, l'a laissé libre dans son adaptation, et il a dit, c'est mon livre, c'est ton film. Et puis alors, on lui a dit aussi, mais si ce film ne ressemble pas au livre, eh bien Umberto Eco lui a dit, mais moi, tu sais, j'ai un ami qui a fait une sculpture, il l'a appelé Le Nom de la Rose, eh bien, ce n'est pas le livre pour autant, c'est une sculpture. Donc voilà. Le livre a été adapté au cinéma en 86. Il a fait l'objet d'une mini-série italo-allemande en 2019. Et puis là, maintenant, assez récemment, il a fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée par Milo Manara en deux tomes, le premier étant paru en 2023 et le second vient de paraître en 2026. C'est une adaptation assez fidèle, très fidèle, je dirais, au livre, peut-être la plus fidèle par rapport au film, à la mini-série, etc., qui ont pris quelques libertés, notamment, par exemple, une des libertés qui est très marquante dans le film d'Hano et qui est reprise dans la mini-série, c'est le personnage de la paysanne, la femme, dont on ne connaît pas le nom, qui, dans le livre, a une relation, sexuel, sensuel avec Adzo, je reprendrai un peu le détail de tout ça, le jeune novice bénédictin qui accompagne Guillaume de Baskerville. Mais dans le livre, d'abord, c'est raconté dans des termes à la manière d'une chronique médiévale, hein, dans les termes du Cantique des Cantiques, dans les termes de un peu fleuri d'auteurs du Moyen-Âge. Dans le livre d'Anneaux, le rôle est joué par Valentina Vargas, et c'est beaucoup plus sensuel. Et elle ne meurt pas, elle ne disparaît pas, tandis que Echo l'a fait un peu disparaître dans son livre. Il y a une séquence, mais après, elle est jugée, elle est emmenée à Avignon. Et donc elle disparaît de l'intrigue, tandis que dans le film de Anno, elle est présente à la fin. Adzo, qui s'en va, qui quitte l'abbaye, lui jette un dernier regard, la croise sur son chemin. Donc il a un peu amplifié, disons, ce personnage de la femme, de la paysanne, et dans la mini-série, c'est encore beaucoup plus amplifié, parce qu'il y a une sorte d'histoire d'amour qui se trame tout au long des 8 épisodes entre le jeune novice Adzo, le bénédictin, et puis cette paysanne. Donc là, c'est vraiment une trahison par rapport au roman de Echo, en tout cas un développement qui n'était pas du tout présent avec cette ampleur dans le livre. Mais donc je disais, la bande dessinée a très bien adapté ça, et chez Milo Manara, évidemment, qui est le maître de la bande dessinée érotique, évidemment, cette femme devient très très belle, et donc il y a quelques pages qui lui sont consacrées. Ça ne prend pas trop d'espace, mais quand même, à la fin du premier tome, il y a cette scène sensuelle qui termine le premier tome et qui commence le second tome. Donc là, on retrouve un peu la patte, je dirais, érotique de Manara. Mais Manara, qui n'est pas que l'auteur du Déclic, qui est aussi l'auteur d'une adaptation, par exemple, de la vie de Caravage en bande dessinée. Et donc, il n'a pas fait que de la bande dessinée érotique. Donc, c'était assez normal, en quelque sorte. Enfin, ce n'est pas incongru qu'il ait été chargé par le fils d'Umberto Eco, Stefano Eco, de réaliser cette bande dessinée qui a été mise en couleur par sa fille, par la fille de Milo Manara. Qui a dû évidemment sélectionner dans le texte d'Umberto Eco ce qu'on allait garder, ce qu'on allait laisser de côté. Donc il a fallu réduire le livre, qui fait quand même plus de 500 pages, presque 600 pages. Il a fallu le réduire de 80%, hein. Il en reste à peine 20%, mais ce sont 20% qui sont quand même très fidèles au livre, qui font l'objet d'une très belle présentation dans cette bande dessinée. On peut encore ajouter, parmi les adaptations, qu'il y a eu aussi un opéra consacré au nom de la rose, à la fois présenté à la Scala de Milan et à l'Opéra de Paris, et il y a aussi eu une pièce de théâtre. Mais disons que les adaptations principales du nom de la rose et les plus importantes, c'est surtout le film de Jean-Jacques Haneau. La mini-série en 8 épisodes n'est pas mal, mais on peut s'en dispenser, en quelque sorte, parce que elle est quand même moins bien que le film. Bon, il y a des acteurs importants quand même, John Turturro qui joue le rôle de Guillaume de Baskerville, il y a Rupert Everett qui joue celui de Bernard Guy, l'inquisiteur, mais donc il y a des développements qui ne sont pas dans le livre. C'est un peu dommage, parce que quand même il aurait été possible d'être un peu plus fidèle. Il y a par exemple tout un développement autour des Dolciniens, ce sont des hérétiques, et on invente la fille de Fra Dolcino, une personne complètement inventée, la fille de Dolcino qui mène une sorte d'existence à la Arya un peu de Game of Thrones. Pour moi, ce n'est pas indispensable, et ça nous éloigne quand même très fort du livre de Umberto Eco. Mais donc, je disais, les adaptations principalement, il y a le très beau film de Jean-Jacques Haneau, et puis maintenant il y a cette bande dessinée de Milo Manara, qui est quand même tout à fait remarquable.
Alors, peut-être avant de creuser l'aspect bande dessinée, je reviendrai bien sur le livre d'origine.
Et puis peut-être sur Umberto Eco lui-même.
Et sur Umberto Eco, oui. Effectivement. Ce roman, vous disiez, démarre la carrière d'Umberto Eco. C'est un sujet quand même très particulier pour se lancer dans l'écriture, d'autant qu'Umberto Eco, pour la suite, est parti dans d'autres sujets. Il n'est pas spécialement resté dans l'idée du roman historique.
Oui, tout à fait. Donc Umberto Eco était déjà connu avant l'écriture de ce roman, mais évidemment, c'est ça qui l'a rendu connu au niveau mondial, véritablement, hein, puisque c'est devenu vraiment l'auteur du Nom de la Rose. Il a écrit ensuite plusieurs autres romans par la suite. Il en a écrit 7 en tout. Hein, donc après, il y a Le Pendule de Foucault, il y a le Baudelino, L'île du jour d'avant, La Flamme de la reine Loana, et puis Année Zéro, je crois. Donc il y a une série de romans, mais qui tous ont connu un succès moins important malgré tout que Le Nom de la Rose. Ce qu'il regrettait d'ailleurs, à un moment, il a dit je déteste Le Nom de la Rose parce que ce livre a empêché mes lecteurs, en fin de compte, de lire avec autant d'attention les autres livres, et notamment Le Pendule de Foucault, qui, selon lui, était son meilleur livre, mais qui est quand même très compliqué, très complexe. Hein. Voilà, on peut préférer, comme c'est mon cas, le Nom de la Rose, mais c'est sûr que pour Le Pendule de Foucault, il a quand même eu aussi des lecteurs, et pour Umberto Eco, c'était celui-là son livre préféré. Mais Umberto Eco, je disais, c'était quand même un universitaire déjà très connu, en Italie surtout, et un peu à l'étranger, avant 1980, mais il y a un avant et un après, hein, Le Nom de la Rose, 1980, il a une cinquantaine d'années, il a 50 ans, 48 ans quand il publie ce livre. Il est né en 1932 à Alessandria, dans le Piémont, donc Italie du Nord. Il a poursuivi une carrière, une formation d'abord à l'université de Turin, où il a passé sa thèse à 22 ans en philosophie sur l'esthétique chez Thomas d'Aquin. Donc là, c'est déjà un sujet de philosophie médiévale. Hein, donc c'est un sujet qui pouvait l'amener à, par la suite, demeurer un médiéviste, mais en réalité, il a pris un autre chemin. Il est resté toujours un fin connaisseur de la philosophie médiévale, de la pensée médiévale, mais il a vraiment élargi ses domaines d'intérêt et d'études. Mais il est devenu professeur en communication, ou plus exactement en sémiotique, l'étude des sens, du sens des sens en quelque sorte, du sens des mots, des signes, à l'université de Bologne, et il a écrit une série d'ouvrages de sémiotique importants comme L'œuvre ouverte, Lector in fabula et quelques autres. Et donc, et il était aussi connu dans le champ médiatique parce qu'il écrivait toutes les semaines l'hebdomadaire, le journal L'Espresso, des chroniques qui ensuite ont chaque fois été publiées sous forme de textes, d'essais de sémiotique, justement, comme celui qui porte le titre « La guerre du faux ». Et donc, il écrivait vraiment avec une grande régularité, à tel point d'ailleurs que quand il est mort et que son article hebdomadaire ou bi-hebdomadaire à ce moment-là n'est pas paru, eh bien certains de ses amis se sont dit qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Et effectivement, il était mort. Il est mort donc en 2016. Il était né en 1932. Il est mort en 2016, en février 2016. Et ses derniers mots ont été ceux-ci à sa femme Renate. Mi chiudo come un riccio, je me referme comme un hérisson. Et cet homme qui s'était véritablement ouvert au monde, qui avait une connaissance véritablement encyclopédique, un homme bibliothèque, un homme en qui le monde entier se reflétait dans toutes ses dimensions, ses dimensions de sens, ses dimensions littéraires, et bien là, c'est refermé maintenant. Voici une dizaine d'années. Et donc, je disais, en 1980, il commence en 78, hein, il a mis 2 ans à écrire ce livre, et en fait, pendant une année, il n'a même pas écrit, c'est la seconde année qu'il s'est consacré à l'écriture de ce livre. Comment l'idée lui est venue? Eh bien, dans l'apostille au Nom de la Rose, c'est un petit texte qu'il a écrit par la suite en 1983 pour commenter, expliquer un peu le processus de création du Nom de la Rose, mais c'est un texte assez théorique et qui ne s'en tient pas seulement à la dimension de commentaire du Nom de la Rose. C'est un peu complexe malgré tout comme texte, mais là, malgré tout, là, dans ce texte, il expose les raisons qui l'ont amené à écrire ce livre. Bon, il dit qu'en fait, l'idée lui est venue comme ça, mais dans une interview, il est un peu peu plus précis. Il explique qu'une éditrice est venue le trouver et lui a dit qu'elle voulait faire écrire des romans policiers à des personnes qui ne sont pas des auteurs de romans policiers. Ça peut être lui, comme théoricien de la littérature, ou alors peut-être un homme politique, ou des gens dont ce n'est pas le métier. Et ça devait être des formats courts. Alors Umberto Eco, bon, lui, il a dit non, mais alors moi, si je faisais un roman policier, ça se passerait au Moyen Âge et il aurait 500 ou 600 pages. Bon. L'éditrice n'a pas souhaité donner suite à sa proposition, mais lui s'est pris au jeu de ça. Il a commencé à écrire à ce moment-là le nom de la rose, en s'inspirant effectivement de toute sa connaissance du Moyen Âge. Il disait à ce moment-là qu'il était, donc je disais, il avait un peu moins d'une cinquantaine d'années, et lui-même se présente comme un médiéviste en hibernation. Puisque, encore une fois, depuis sa thèse de doctorat, il avait quand même étudié l'œuvre de Thomas d'Aquin dans le domaine de l'esthétique. Mais là, c'est le XIIIe siècle, et lui va vouloir placer son intrigue plutôt au XIVe siècle, mais le Moyen-Âge, évidemment, comme il le dit dans l'apostille, donc il voulait vraiment entrer dans un univers médiéval, et aussi il avait une idée, c'était il voulait tuer un moine, et d'ailleurs il s'est procuré auprès d'un ami la méthode pour empoisonner un moine, ce qui lui a posé d'ailleurs un peu problème, parce qu'il s'est dit si on trouve cette lettre chez moi, on va croire que je veux c'était une recette de poison, on va croire que je veux empoisonner quelqu'un. Donc il a eu quelques inquiétudes à garder cette lettre chez lui, mais voilà, ça c'est le point de départ, tuer un moine, et s'est lancé dans l'écriture de ce roman fleuve, hein, quand même très très long, très complexe, qui commence comme une avec un petit clin d'œil pour perdre un peu le lecteur ou l'entraîner un peu dans des chemins un peu tortueux, puisque ça commence comme un manuscrit retrouvé, un peu comme le manuscrit trouvé à Saragosse, hein, c'était un procédé qui se retrouvait dans les romans de fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, c'était assez fréquent, on imagine qu'on a trouvé un manuscrit, et là en l'occurrence c'est un peu complexe parce que il dit qu'en 1968 on lui a donné un texte qui proviendrait justement d'un texte originellement médiéval par un certain Hadso de Melk du XIVe siècle, mais qui est transmis dans une version passant par une version française du XVIIe siècle, elle-même reformulée par l'abbé Vallet, je crois, au XIXe siècle, un personnage qu'il invente, et qu'il a eu en main, et puis qu'il a perdu, qui lui a échappé, et il réécrit ce manuscrit qu'il a trouvé. Donc on est vraiment dans un jeu de pistes un peu farfelu, qui fait partie, hein, de la présentation du nom de la rose. Alors ceci disparaît dans l'adaptation du film, mais c'est présent dans la bande dessinée d'Umberto de Milo Manara, qui montre justement en quelques pages cette préface en quelque sorte au nom de la rose, avec Eco qui trouve ce manuscrit. Mais l'aventure commence véritablement avec Hadso de Melk, qui est le narrateur de cette aventure, mais c'est un narrateur devenu vieux. Donc il est devenu moine bénédictin, et il raconte au soir de sa vie les aventures qu'il a connues dans sa jeunesse. Alors là, c'est une manière de faire référence en fait au Sylvie de Gérard de Nerval, qui est un texte que Umberto Eco admirait énormément, et qu'il a traduit par la suite en italien. Alors on se perdrait à mentionner toutes les références culturel, littéraire de ce livre. Umberto Eco lui-même disait, un peu par boutade, il n'y a pas un mot qui soit de moi dans le nom de la rose. C'est tous des références intertextuelles, littéraires, etc. Soit à la pensée médiévale, soit à des auteurs postérieurs. Enfin, on pourra développer un peu quelques références qui figurent dans le nom de la rose. Mais maintenant, je vais reprendre un peu l'histoire. On est en novembre 1327 et Hadso de Melk, qui est donc un jeune novice bénédictin, accompagne son maître, auquel son père l'a confié, un érudit franciscain du nom de Guillaume de Baskerville, qui se rend dans une abbaye bénédictine qui se trouve située aux confins, enfin dans l'Italie du Nord, entre la Ligurie et la Provence. Et il doit s'y rendre pour organiser une rencontre au sommet, en quelque sorte, entre les envoyés de l'empereur Louis de Bavière, dont il est un des représentants, et singulièrement aussi les franciscains qui sont soutenus par l'empereur Louis de Bavière. J'expliquerai un peu plus tard tous les tenants et les aboutissants de cette alliance entre franciscains et empereurs, qui doivent rencontrer là des représentants de la papauté, du pape Jean XXII, qui est opposé à l'empereur et qui, lui, se trouve en Avignon. La papauté est à ce moment-là à Avignon, hein, depuis le début du XIVe siècle. Et donc, on est dans un épisode, un de ces nombreux épisodes de cette lutte entre la papauté et l'Empire au Moyen-Âge, hein, qui remonte déjà au XIe siècle, au moment de la réforme grégorienne, quand les papes vont en quelque sorte vouloir prendre leur autonomie et leur indépendance par rapport aux empereurs du Saint-Empire romain germanique. Et il va y avoir régulièrement, tout au long du Moyen-Âge, eh bien, des moments de tension, de forts conflits entre le pape et l'empereur, chacun estimant que l'autre dépend en quelque sorte de son pouvoir. Il y a le temporel et le spirituel. Eh bien, pour le pape, le temporel, le pouvoir politique dépend en quelque sorte du pouvoir spirituel qui est au-dessus. Et à l'inverse, l'empereur considère le spirituel, que le pape est là sous sa protection et sous sa domination, sous son autorité, sous l'autorité politique. Donc c'est vraiment tout cet enjeu qui est au cœur de cet épisode, dans le contexte, en tout cas, c'est le contexte politique et historique de l'époque, qui voit donc l'opposition dans ce cas-ci de l'empereur Louis de Bavière, Louis IV de Bavière, et du pape Jean XXII. Et Guillaume arrive avec Azzo dans cette abbaye bénédictine dont on ne connaît pas le nom, et cheminant vers cette abbaye, il y a un premier épisode qui n'apparaît pas dans le film, qui apparaît dans la mini-série, qui apparaît dans la bande dessinée et qui est présente évidemment dans le roman. C'est la manière dont Guillaume de Baskerville parvient il voit des moines qui sont tout en affaire, le célérier qui est accompagné de quelques moines, ils sont à recherche de quelque chose, on ne sait pas quoi. Et Guillaume dit le cheval que vous cherchez, le cheval Brunel, se trouve par là. Et les moines disent, mais vous l'avez vu? Non, 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 je ne l'ai pas vu, mais c'est un cheval avec des petits sabots, un cheval de couleur brune ou noire, je ne sais plus, avec des oreilles fines et pointues, et qui galope avec une grande vitesse. Eh bien, il est parti par là. Et alors, ils sont très impressionnés, ils vont à la recherche du cheval et ils le trouvent. Et alors là, en fait, dès le départ, Guillaume de Baskerville montre ses qualités de déduction et d'observation. Hein. Et évidemment, là, on voit tout de suite que ça sera un enquêteur. En fait, son nom même est un clin d'œil à Sherlock Holmes, le chien de Baskerville, donc un clin d'œil à Conan Doyle. C'est aussi une référence à Guillaume d'Ockham, qui est un grand philosophe de ce temps, qui est mentionné dans le livre d'ailleurs, qui est un grand philosophe logicien, nominaliste. Alors c'est un petit peu compliqué, mais disons dans la philosophie médiévale, il y a ce qu'on appelle la querelle des universaux qui oppose les réalistes aux nominalistes. Les réalistes ce sont ceux qui croient que les idées générales ont une véritable existence. C'est les platoniciens, comme Platon, qui pensent qu'il y a un monde des idées, hein. Et les nominalistes, au contraire, pensent que les noms généraux ne sont que des noms, rien d'autre. Il n'y a que du singulier, il n'y a pas d'universel. Et c'était aussi dans ce Moyen-Âge finissant, une école de philosophie qui était très tournée, en fin de compte, vers le développement de la pensée qui va conduire, enfin, développement un peu des sciences, de la pensée, de la philosophie, qui apparaît comme très moderne, en fait, et qui va déboucher un peu sur la science moderne, même si à aucun moment Dieu n'est absent de ses démarches, ça reste des théologiens, etc. Mais notamment Guillaume d'Ockham est connu pour avoir développé un principe d'épistémologie dans de philosophie des sciences qu'on appelle le rasoir d'Occam, qui n'est pas tout à fait présent tel quel dans l'œuvre d'Occam, mais le principe s'y trouve, hein, c'est un principe de parcimonie épistémologique. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'en fait c'est un principe de simplicité, c'est-à-dire l'explication la plus simple a tendance à être la meilleure. Donc la formulation exacte de ce principe, c'est « il ne faut pas multiplier les entités au-delà de la nécessité ». C'est-à-dire que si on peut faire une hypothèse qui est moins coûteuse en théorie, enfin moins coûteuse en hypothèse, enfin justement moins complexe, sans simplification pour autant, hein, mais qui a l'air d'être plus évidente, eh bien on privilégiera cette hypothèse sur une autre. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Si en Europe on entend des bruits de sabots, il est plus pertinent d'imaginer que c'est un cheval plutôt qu'un zèbre. Par contre, si on se trouve en Afrique, c'est différent. Mais voilà, le principe du rasoir de Cam, c'est en fin de compte privilégier l'hypothèse la plus simple et la moins coûteuse. Par exemple, Guillaume va devoir mener l'enquête sur des morts qui surviennent dans l'abbaye, et il applique justement, et c'est dans le livre ça apparaît bien, il applique vraiment le rasoir d'Occam en imaginant que le suicide de telle personne est une hypothèse meilleure, car elle n'implique qu'une seule personne et sa volonté, que d'imaginer que cette personne aurait été tuée. C'est le premier mort qui est en fait effectivement un suicidé et non pas un homicide. Les autres, ça sera différent. Mais donc, je reviens à cette arrivée à l'abbaye où il fait montre d'un esprit de déduction tout à fait remarquable à la Sherlock Holmes. Mais en fait, ici, ce n'est pas une référence à Sherlock Holmes, c'est une référence aux Zadigs de Voltaire, où on a aussi ce personnage de Zadig qui parvient par la simple force de la raison, mais c'est vraiment présenté avec beaucoup d'humour et c'est une parodie chez Voltaire, hein, mais qui parvient effectivement à découvrir des énigmes absolument très compliquées et à trouver des objets qui sont perdus, je ne sais plus exactement lesquels dans Zadig, mais en fait là c'est vraiment une référence tout à fait explicite aux Zadig de Voltaire, mais on ne le sait pas forcément en lisant, et d'ailleurs on peut lire Le Nom de la Rose sans connaître du tout toutes ces références culturelles, littéraires, et on lit ça avec beaucoup de plaisir, mais c'est évidemment amusant aussi de retrouver tous les emprunts qu'Umberto Eco a fait à la littérature. Et donc à partir de là, Guillaume de Baskerville est accueilli par l'abbé, et l'abbé s'ouvre à lui de son angoisse, parce que préalablement à cette rencontre qui doit avoir lieu dans son abbaye, mais il y a eu cette mort étrange. Cette mort étrange, c'est celle d'un enlumineur, Adelme, qui a été retrouvé mort au pied d'une fenêtre. Au pied d'une tour, avec une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Et évidemment, c'est là que se trouve l'énigme. Comment se fait-il qu'il n'a pas pu se jeter ou être jeté depuis cette tour, puisque, encore une fois, la fenêtre ne s'ouvre pas. Et par ailleurs, on exclut l'hypothèse du suicide, alors qu'en réalité, c'est malgré tout le cas. Même s'il a été poussé à se suicider en quelque sorte, mais on exclut l'hypothèse, et d'où le fait qu'il sera enterré chrétiennement dans une terre consacrée, ce qui n'était pas autorisé pour les personnes suicidées. Et là donc l'abbé, qui suspecte en fait plutôt une histoire d'homosexualité qui effectivement est présente aussi dans le roman, mais c'est pas la cause, c'est pas l'origine, et c'est de la mort de ce personnage. Eh bien, l'abbé Abon demande à Guillaume de Baskerville de mener l'enquête, ce qu'il commence de faire avec l'aide de son disciple Adzo, qui est le Watson de l'histoire, et petit à petit. Eh bien, ils vont poser des questions à toutes sortes de personnages. Ils vont être très attirés aussi par cette bibliothèque qui est en fait au cœur du roman, hein. C'est la bibliothèque, et il y a aussi l'histoire d'un livre interdit, un livre d'Aristote, le second tome de la poétique d'Aristote consacrée à la comédie, dont Umberto Eco imagine qu'il a été écrit par Aristote. On n'est pas sûr qu'il ait été écrit et qu'il aurait été, perdu, mais là, peut-être dans cette bibliothèque, il y aurait un exemplaire justement de ce livre dont on avait perdu la trace. Bon, ça joue un rôle très important évidemment dans toute l'histoire qui suit, mais donc tout tourne en fin de compte autour de cette bibliothèque gigantesque qui se trouve dans la tour, la grande tour à la structure un peu complexe avec des quatre tours de coin qui sont en polygonale. Et à l'intérieur de cette bibliothèque se trouve, à l'intérieur de cette tour se trouve la bibliothèque, labyrinthe, qui est au troisième étage de la tour. Alors Jean-Jacques Haineau a estimé que c'était mieux de faire une bibliothèque en hauteur. Donc dans le film de Jean-Jacques Haineau, on a une bibliothèque qui s'inspire des œuvres de Escher ou de Piranèse. Tandis que dans le livre d'Umberto Eco, c'est sur une dimension horizontale, mais quand même au troisième étage de la tour, au-dessus des cuisines et du scriptorium. Donc l'endroit où les moines consultent et écrivent, copient les livres. Et donc à partir de là, les morts accidentelles ou criminelles vont se multiplier. Donc ça se passe en fait en 7 jours, et il y a 7 morts, un par jour. C'est écrit aussi selon le pastiche d'une chronique du XIVe siècle, dans un style un peu ancien, évidemment, qui renvoie à cette époque-là. Beaucoup de citations en latin qui ne sont pas traduites. Hein, c'était évidemment quelque chose qui pouvait un peu rebuter les lecteurs, même si Umberto Eco a trouvé ses lecteurs. Enfin, on disait, hein, en Italie, il y avait une petite plaisanterie qui disait que tout le monde achetait les livres d'Umberto Eco, mais que personne ne les lisait. Je crois quand même qu'il a été lu. Et donc dans cette présentation rapportée par Azzo, qui se souvient, il présente les choses aussi en fonction des heures canoniales, donc prime, sexte, none, vêpres, etc., laude, enfin voilà. Et donc c'est présenté comme ça. Et alors ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'entre les deux, le jeune, mais qui n'est plus jeune au moment où il écrit, c'est Azzo, et la personne âgée, c'est Guillaume de Baskerville. Et pourtant, celui qui, dans sa tête, dans sa pensée, symbolise la jeunesse, ça va plutôt être Guillaume de Baskerville, qui appartient à un ordre franciscain, donc qui a été fondé un siècle plus tôt, par Saint François d'Assise, parallèlement à l'autre grand ordre mendiant, celui des dominicains. Mais là, c'est les ordres un peu novateurs, en fin de compte, au sein de l'Occident médiéval, par rapport aux bénédictins, qui eux sont un peu rétrogrades, en quelque sorte, qui représentent plutôt la tradition et le passé, alors que les franciscains représentent la modernité. Eh bien, Azzo, bien que jeune, représente en fait la manière ancienne de penser. Et d'ailleurs, même pour Umberto Eco, Azzo ne comprenait rien. Il ne comprenait pas ce qu'il rapportait, en quelque sorte. C'est lui qui écrit l'histoire, mais il ne comprend pas, en quelque sorte, ce qu'il écrit. Il rapporte les choses telles qu'elles se sont produites. Il rapporte les propos et la pensée de Guillaume de Baskerville. Mais, lui ne comprend pas exactement tout ce qu'il... tous les tenants et les aboutissants, et toute l'histoire, tout ce qu'il rapporte. Jean-Jacques Haineau dit même que Umberto Eco lui aurait dit « Mais écoute, Azzo, c'est un con, c'est un crétin. » Et ça, c'est ce que n'a pas voulu adapter Jean-Jacques Haineau. Jean-Jacques Haineau a voulu, justement, il a été infidèle à Eco en faisant finalement d'Azzo quelqu'un de plus intelligent, qui apprend de ses erreurs ou de son passé, de son histoire, et qui aussi découvre l'amour avec cette paysanne, alors que chez Eco, bon, c'est pas tout à fait une découverte d'amour, c'est un moment un peu fort, un peu intense quand même, mais ce n'est pas l'essentiel. Et encore une fois, pour Eco, Azzo n'était pas un personnage très intéressant, même si c'est quand même lui qui rapporte l'histoire. Le vrai personnage attachant, c'est évidemment Guillaume de Baskerville, et qui pour nous tous maintenant est identifié à l'acteur Sean Connery. Alors c'est amusant de noter qu'au départ, ni Jean-Jacques Hano ni Umberto Eco ne voulaient de Sean Connery dans ce rôle. Et l'agent de Sean Connery et Sean Connery lui-même qui a dû faire en quelque sorte le siège de Jean-Jacques Hano pour parvenir à aller le trouver à Munich, où le film était en préparation, parce que c'est un film qui a été fait en grande partie avec des capitaux allemands, et qui a été fait en anglais, si bien qu'il a gagné le prix du meilleur film étranger, le César du meilleur film étranger, alors que, bon, Jean-Jacques Hano est quand même français, mais c'était un film qui passait éventuellement pour être un film non français, puisque avec des capitaux étrangers et en anglais, ce qui convenait tout à fait à Umberto Eco, qui disait le latin de notre temps, c'est l'anglais. Donc c'est bien que ça soit en anglais. Eh bien, aucun des deux ne voulait de Sean Connery, parce que Sean Connery, il faut se souvenir qu'à l'époque, en 1986, ou un peu avant, c'était James Bond, c'était 007, et donc il était identifié à James Bond, et en plus de ça, c'était un acteur qui était has-been à l'époque. Il va rebondir dans sa carrière grâce justement au Nom de la Rose, et par la suite il sera le père d'Indiana Jones, et il va apparaître dans d'autres films, mais à l'époque vraiment c'est un acteur dont personne ne voulait plus. Et d'autre part aussi, Umberto Eco ne voulait pas du tout qu'on associe 007 à Guillaume de Baskerville. Il disait, voilà, c'est déjà un personnage assez chargé, c'est déjà Guillaume d'Ockham par son prénom, c'est Sherlock Holmes par son nom, Baskerville. Si en plus de ça, on ajoute James Bond, c'est beaucoup trop... ça oriente beaucoup trop vers justement une lecture de cette histoire directement comme policière, alors qu'il fallait laisser planer un petit doute malgré tout. Mais Sean Connery est venu à Munich. Et là, Jean-Jacques Hano d'abord a trouvé qu'il était incroyablement beau, qu'il avait une présence extraordinaire, et il lui a dit, bon, Jean-Jacques Hano raconte ça à de multiples reprises, il a dit « Listen boy » à Jean-Jacques Hano, « Écoute mon garçon », et il a commencé à lire, et alors là il a trouvé, Jean-Jacques Hano a dit « C'est magnifique, c'est lui ». Umberto Eco a mis plus de temps à être convaincu. Jean-Jacques Hano avait réalisé une entrevue entre eux sur le tournage, et donc Umberto Eco est allé le voir dans sa caravane, je crois, et puis au bout d'une heure de discussion, je ne sais pas, il est revenu auprès de Jean-Jacques Hano et il a dit « Il est très compétent en football ». Donc il n'était pas du tout convaincu. Mais en fin de compte, après avoir vu le film fini, eh bien, Umberto Eco a trouvé que oui, il avait bien réussi, le film était réussi, et surtout Guillaume de Baskerville était bien incarné par Sean Connery. Mais donc il y a évidemment quelques divergences entre le livre et le film. La fin de Bernard Guy, l'inquisiteur, est différente dans le film et dans le livre. Le personnage de la femme est plus développé, et il y a une sorte de happy end en fait dans le film qui n'est pas vraiment présente dans le livre. Alors ce film a fait l'objet d'un soutien d'un part de conseillers historiques importants, hein, donc c'est le cas de Jacques Le Goff et de six autres historiens dans son entourage, dont Jean-Claude Schmitt, Françoise Piponnier et Michel Pastoureau pour le spécialiste des animaux et des couleurs, qui ont donné des conseils à Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano a vraiment voulu avoir des informations très détaillées sur tout, sur la tonsure, à quelle fréquence les moines étaient tonsurés, dans quel type de lit ils dormaient, quel type de lumière était utilisé, quel type de vêtements étaient portés, etc. Donc il y a un grand souci du détail historique dans la réalisation de ce film, et pourtant, pour certaines choses, il n'a pas tenu compte de l'avis des historiens. Et c'est notamment la fin qui est un peu hollywoodienne, un peu, enfin, qui a complètement déplu à Jacques Le Goff d'ailleurs, et qui s'en est ouvert, qui à certains publics, qui l'a dit, et ça n'a pas plu à Jean-Jacques Haneau, qui l'a traité, je crois, de vieux con en disant que les universitaires ne comprenaient rien à la création artistique et à la transposition cinématographique. Mais en fin de compte, il en reste un film qui est quand même un chef-d'œuvre, qui a quand même bénéficié du soutien de certains des plus grands historiens de l'époque, médiévistes, à commencer par Jacques Le Goff. Donc c'est plutôt une réussite notamment dans le sens des détails, mais pas par exemple, je disais, Michel Pastoureau a conseillé pour les animaux, mais il avait oublié à ce moment-là, ça lui avait échappé, que les cochons au Moyen-Âge n'étaient pas roses mais étaient noirs et étaient de couleur brune, etc. Donc à la dernière minute, eh bien, ils ont repeint les cochons roses en noir et leur ont mis des poils. Ce qui malheureusement n'a pas été repris dans la bande dessinée de Milo Manara où on a des petits cochons tout roses. Mais bon, voilà, ça c'est un détail. Mais sinon, pour le reste, la bande dessinée de Manara est très très bien.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout à Benoît Béarderic de m'avoir accordé cette interview. La seconde partie de l'interview, eh bien, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?